Mathilda de Roald Dahl. Une adorable petite dévoreuse de livres. Père et mère sont gens bien curieux. Même lorsque leurs rejetons sont les pires des poisons imaginables, ils persistent à les trouver merveilleux. Certains parents vont plus loin. L'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent à se persuader du génie de leur progéniture. Mais après tout, quel mal à cela, ainsi va le monde. C'est seulement quand les parents commencent à nous vanter les mérites de leurs odieux moutards que nous nous mettons à crier « Ah non, assez, vite de l'air, nous allons nous rendre malades !» Les enseignants souffrent beaucoup d'avoir à écouter ce genre de balivernes préférées par des parents gonflés d'orgueil. Mais en général, ils se rattrapent dans l'établissement des notes en fin de trimestre. Si j'étais professeur, je concocterais des appréciations féroces pour les enfants des radoteurs aussi infatués. « Votre fils Maximilien, écrirai-je, est une nullité totale. J'espère que vous avez une entreprise familiale où vous pourrez le caser à la fin de ses études, car il n'a aucune chance de trouver nulle part ailleurs le moindre emploi. » Ou bien, si je me sentais lyrique, ce jour-là, je dirais « Que les organes de Louis des Sauterelles se trouvent au flanc de leur abdomen est une curiosité de la nature. À en juger par ce qu'elle a appris au cours du dernier trimestre, votre fille Vanessa ne possède pas trace des organes en question. » Je pourrais même aventurer plus loin dans l'histoire naturelle et déclarer « La cigale passe 6 ans à l'état de larve enterrée dans le sol et pas plus de 6 jours à l'air libre au soleil. Votre fils Gaston a passé 6 ans à l'état de larve dans cet établissement et nous attendons toujours qu'il sorte de sa chrysalide. » Une petite fille spécialement odieuse pourrait m'inspirer ce commentaire. Fiona a la même beauté glaciale qu'un iceberg, mais contrairement à ce dernier, il n'a strictement rien à trouver sous cette apparence. Bref, je crois que je me pourlècherais à rédiger des bulletins de fin de trimestre pour les jeunes pestes de ma classe. Mais en voilà assez, poursuivons notre récit. De loin en loin, il arrive qu'on rencontre des parents qui adoptent l'attitude opposée et ne manifestent pas le moindre intérêt pour leurs enfants. Ceux-là sont à coup sûr bien pires que les admirateurs béats. Monsieur et Madame Verdebois appartenaient à cette espèce. Ils avaient un fils appelé Michael et une fille du nom de Mathilda, et considéraient cette dernière à peu près comme une croûte sur une plaie. Une croûte, il faut s'y résigner jusqu'à ce qu'on puisse la détacher sans défaire et la bazarder. Monsieur et Madame Verdebois attendaient avec impatience le jour où ils pourraient se défaire de leur petite fille et la bazarder, en l'expédiant de préférence dans le comté voisin ou même plus loin. Il est déjà assez triste que des parents traitent des enfants ordinaires comme s'ils étaient des croûtes ou des corps aux pieds, mais cette attitude est encore plus répréhensible si l'enfant en question est extraordinaire. J'entends par là aussi sensible que doué. Mathilda était l'un et l'autre, mais par-dessus tout, elle était douée. Elle avait l'esprit si vif et si délié, et apprenait avec une telle facilité, que même les parents les plus obtus auraient reconnu des dons aussi exceptionnels. Mais monsieur et madame Verdebois étaient eux si bornés, si confinés dans leur petite existence étriquée et stupide, qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier chez leur fille. Pour tout dire, fût-elle rentrée à la maison en se traînant avec la jambe cassée, ils ne s'en seraient même pas aperçus. Le frère de Mathilda, Michael, était un garçon tout à fait normal. Mais devant sa sœur, je le répète, vous seriez restés comme 2 ronds de flanc. À l'âge d'un an et demi, elle parlait à la perfection et connaissait à peu près autant de mots que la plupart des adultes. Les parents, au lieu de la féliciter, la traitaient de moulin à paroles et la rabrouaient en lui disant que les petites filles sont faites pour être vues mais pas pour être entendues. À 3 ans, Mathilda avait appris toute seule à lire en s'exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la maison. À 4 ans, elle lisait couramment et tout naturellement se mit à rêver de livres. Le seul disponible dans ce foyer de haute culture, la cuisine pour tous, appartenait à sa mère, et lorsqu'elle lui épluchait de la première à la dernière et apprit toutes les recettes par cœur, elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes. « Papa, dit-elle, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre ?»«
Un livre, dit-il. Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre, pétard de sort ?»«
Le lire, papa.
Et la télé, ça te suffit pas, viens Dieu. On a une belle télé avec un écran de 56. Toi, tu réclames des bouquins, t'as tout de l'enfant gâté, ma fille. »
Presque chaque après-midi, Mathilda se retrouvait seule à la maison. Son frère, de 5 ans, son aîné, allait en classe. Son père était à son travail, et sa mère partait jouer au loto dans une ville située à 10 kilomètres de là. Madame de Verdebois était une mordue du loto et jouait 5 après-midi par semaine. Ce jour-là, comme son père avait refusé de lui acheter un livre, Mathilda décida de se rendre toute seule à la bibliothèque du village. Quand elle y arriva, elle se présenta à la bibliothécaire, Madame Folliot. Puis elle demanda si elle pouvait s'asseoir et lire un livre. Madame Folliot, déconcertée par l'apparition d'une si petite visiteuse non accompagnée, l'accueillit néanmoins avec bienveillance. « Où sont les livres d'enfants, s'il vous plaît ?» demanda Mathilda. « Là-bas, sur les rayons du dessous, lui dit Madame Folliot. « Veux-tu que je t'aide à en trouver un joli avec beaucoup d'images ?»«
Non, merci, dit Mathilda. Je me débrouillerai bien toute seule. »
À dater de ce jour-là, chaque après-midi, aussitôt sa mère partit pour aller jouer au loto, Mathilda trottinait jusqu'à la bibliothèque. Il n'y avait que 10 minutes de trajet,
ce qui lui permettait de passer 2 heures merveilleuses assises tranquillement dans un coin à dévorer livre sur livre. Lorsqu'elle eut lu tous les livres d'enfants disponibles, elle se mit à fureter dans la salle en quête d'autres ouvrages. Madame Folliot, qui l'avait observée avec fascination durant plusieurs semaines, se leva de son bureau et alla la rejoindre. « Je peux t'aider ?» demanda-t-elle. « Je me demande ce que je pourrais lire maintenant, » dit Mathilda. « J'ai fini tous les livres d'enfants. »«
Tu veux dire que tu as regardé toutes les images ?»«
Oui, mais j'ai aussi lu tout ce qu'il y avait écrit. »
Madame Folliot considéra Mathilda de toute sa hauteur, et Mathilda, le nez en l'air, soutint son regard.
« J'en ai trouvé quelques-uns bien mauvais, » ajouta-t-elle, « mais d'autres étaient très jolis. Celui que j'ai préféré, c'est le jardin secret. Il est plein de mystères, le mystère de la pièce derrière la porte fermée et le mystère du jardin derrière le grand mur. »
Madame Folliot était stupéfaite.
« Dis-moi, Mathilda, » demanda-t-elle, « quel âge as-tu au juste ?»«
4 ans et 3 mois, » répondit Mathilda.
La stupeur de Madame Folliot était à son comble, mais elle eut la présence d'esprit de ne pas le montrer.
« Quel genre de livre aimerais-tu lire maintenant ?» demanda-t-elle. « Je voudrais un de ces livres vraiment bons que lisent les grandes personnes, un livre célèbre. Je ne connais pas les titres. »
Madame Folliot, sans hâte, se mit à examiner les rayons. Elle ne savait trop à quel sens se vouer. « Comment choisit-on un livre d'adulte célèbre pour un enfant de 4 ans ?» se demandait-elle. Elle songea tout d'abord à lui donner un roman de jeune fille à l'eau de rose, du genre destiné aux adolescentes. Puis, mue par une ne sais quelle raison, elle s'éloigna résolument de l'étagère devant laquelle elle s'était arrêtée.
« Tiens !» « Si tu essayais de lire ça, dit-elle, c'est un livre très connu et très beau. S'il est trop long pour toi, dis-le-moi et je t'en trouverai un autre plus court et plus facile. »«
Les grandes espérances, lui Mathilda, de Charles Dickens. J'ai très envie de m'y mettre. »«
Je dois être folle, songea Madame Folliot, ce qui ne l'empêcha pas d'affirmer.
Bien sûr, ça devrait te plaire. » Au cours des après-midi suivants, Madame Folliot eut à peine à détacher son regard de la petite fille assise des heures durant dans le grand fauteuil au bout de la pièce avec le livre sur les genoux. Le volume était en effet trop lourd pour qu'elle pût le tenir dans ses mains, si bien qu'elle devait rester penchée en avant pour pouvoir lire. Et c'était un étrange spectacle que celui de cette minuscule créature aux cheveux noirs, assise avec ses pieds qui n'atteignaient pas le sol, totalement captivée par les aventures de Pip et de la vieille Missa Micham dans sa maison pleine de toiles d'araignée, totalement envoûtée par la magie des mots assemblés par le prodigieux conteur qu'était Dickens. Notait par intervalle un bref geste de la main pour tourner les pages, la petite fille restait immobile. Et c'était toujours avec tristesse que Madame Folliot, leur venue, se levait pour annoncer à la lectrice. « Il est 5h10, Mathilda. » Durant les premières semaines des visites de Mathilda, Madame Folliot lui avait demandé.
« Ta maman t'accompagne ici tous les jours et vient te chercher ?»«
Ma mère va à Lesbury tous les après-midi pour jouer au loto, » avait répondu Mathilda. « Elle ne sait pas que je viens ici. » »«
Mais voyons, Mathilda, c'est pas bien, tu devrais lui demander la permission. »
« Vaut mieux pas, » avait dit Mathilda. « Elle ne m'encourage pas du tout à lire, pas plus que mon père d'ailleurs. »
« Mais qu'est-ce qu'il pense que tu fais dans une maison vide tous les après-midi ?»«
Que je traînaille, que je regarde la télé, je suppose. Ce que je peux faire ne les intéresse pas du tout, » avait ajouté un peu tristement Mathilda.
Madame Folliot s'inquiétait des risques que pouvait courir l'enfant en suivant la grande rue très animée du village, puis en la traversant. Mais elle résolut à ne pas s'en mêler. Au bout de 8 jours, Mathilda avait fini Les Grandes Espérances, une édition qui ne comptait pas moins de 411 pages.
« J'ai adoré ça, » dit-elle à Madame Folliot. « Monsieur Dickens a écrit d'autres livres ?»«
Tout un tas, » dit Madame Folliot éberluée. « Tu veux que je t'en choisisse un second ?»
Au cours des 6 mois suivants, sous l'œil ému et attentif de Madame Folliot, Mathilda lut les livres suivants. « Nicolas Nickleby » de Charles Dickens, « Oliver Twist » de Charles Dickens, « Jane Eyre » de Charlotte Brontë, « Orgueil et préjugé » de Jane Austen, « Tess d'Uberville » de Thomas Hardy, « Kim » de Rudyard Kipling, « L'homme invisible » de H.G. Wells, « Le vieil homme et la mère » d'Ernest Hemingway, Le bruit et la fureur de William Faulkner, Les raisins de la colère de John Steinbeck, Les bons compagnons de J.B. Priestley, Le rocher de Brighton de Graham Greene, La ferme des animaux de George Orwell. C'était une liste impressionnante et Madame Folliot était maintenant au comble de l'émerveillement et de l'excitation, mais sans doute fit-elle bien de ne pas donner libre cours à ses émotions. Tout autre témoin des prouesses littéraires d'une si petite fille se serait sans doute empressé d'en faire toute une histoire et de clamer la nouvelle sur les toits. Mais telle n'était pas Madame Folliot. Madame Folliot savait rester discrète et avait depuis longtemps découvert qu'il était rarement bon d'intervenir dans la vie des enfants des autres.
« Monsieur Hemingway dit des tas de choses que je ne comprends pas, » lui expliqua Mathilda, « surtout sur les hommes et les femmes. Mais j'ai beaucoup aimé son livre quand même. Avec sa façon de raconter les choses, j'ai l'impression d'être là sur place et de les voir arriver. »
« Un bon écrivain te fera toujours cet effet, » dit Madame Folliot. « Ne t'inquiète donc pas de ce qui t'échappe. Lis tranquillement. Laisse les mots te bercer comme une musique. » Bon, d'accord, d'accord. Sais-tu, reprit Madame Folliot, que dans les bibliothèques publiques comme celle-ci, il est possible d'emprunter des livres et de les emporter chez soi? Mais non, je ne savais pas, dit Mathilda. Ça veut dire que je peux en apporter, moi? Bien sûr, dit Madame Folliot. Quand tu as choisi le livre que tu désires, tu me l'apportes, que je puisse le noter dans le cahier, il est à toi pour 15 jours. Tu peux même en prendre plus d'un si t'en as envie. À dater de ce jour-là, Mathilda ne se rendit plus à la bibliothèque qu'une fois par semaine pour y prendre des nouveaux livres et rendre ce qu'elle avait lu. Sa petite chambre était devenue sa salle de lecture, elle y passait le plus clair de ses après-midi, à lire avec bien souvent une tasse de chocolat chaud à côté d'elle. Elle n'était pas encore assez grande pour attendre les choses dans la cuisine, mais elle tenait cachée, dans la cour, une caisse légère sur laquelle elle se juchait pour attraper les ingrédients dont elle avait besoin. La plupart du temps, elle préparait du chocolat, réchauffant le lait dans une casserole sur le fourneau avant d'y jeter le cacao. Il n'y avait rien de plus agréable que de boire un chocolat à petites gorgées en lisant. Les livres la transportaient dans des univers inconnus et lui faisaient rencontrer des personnages hors du commun qui menaient des vies exaltantes. Ainsi navigua-t-elle sur d'antiques voiliers avec Joseph Conrad, explora-t-elle l'Afrique avec Ernest Hemingway et l'Inde avec Rudyard Kipling. Ainsi, assise au pied de son lit dans sa petite chambre d'un village anglais, visita-t-elle de long en large et de haut en bas le vaste monde.